Voilà, je suis heureux de vous porter des salutations de l'église de Mirecourt. Et c'est vrai que je me réjouis de partager avec vous la parole de Dieu. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte à quel point on a vraiment rien de plus précieux. Alors j'aimerais partager avec vous un passage fort connu. Donc c'est dans le chapitre 22 de la Genèse. Et on lira le verset 1 à 8. Dans Genèse chapitre 22, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai ». Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer et puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et lui dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste ». Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ce qui m'a frappé dans ce passage, en fait, c'est ce que je viens de lire, c'est au verset 7. Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Ça vient dans ces 3-4 mots. Où est l'agneau pour le sacrifice ? Donc j'aimerais un peu dégrossir les éléments de compréhension de ce texte. On a donc un père et un fils qui sont en marche pour un sacrifice qui est d'un genre extrêmement spécial, dont je n'entrerai pas dans le pourquoi du comment aujourd'hui, mais il est clair qu'on devine dans ce passage un silence tonitruant. Il y a une grande communion entre le père et le fils. On voit qu'il est répété deux fois dans ce passage, ils marchèrent tous les deux ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose de fort entre le père et le fils. Mais pour toute la communion qu'il y a entre les deux, il y a aussi ce silence tonitruant. Comment un père pourrait-il expliquer à son fils que quelques moments plus tard, il va le sacrifier ? Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas une seule langue sur terre qui permet d'exprimer des choses comme ça. La situation, elle est scandaleuse, il faut le dire. Et alors le silence est rompu par cette question pénétrante de cet enfant, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un enfant, il a une douzaine d'années, en tout cas il a l'âge de raison. Et l'enfant, il pose la question, il dit « Où est l'agneau pour le sacrifice ?»« Où est l'agneau ?» C'est-à-dire qu'on a bien les accessoires, il y a le feu pour allumer le feu, pour le brûler la victime, il y a le couteau pour égorger la victime, ça on voit bien, mais il manque l'essentiel. Où est l'agneau pour le sacrifice ? Et pour le lecteur, si vous voulez, cette question est dramatique, c'est un passage que nous connaissons par cœur. Dans le judaïsme, c'est un passage, je crois qu'on a vraiment tout dit dessus. Et donc nous, lecteurs, nous savons ce qui se passe. Et il y a ce qu'on appelle, en termes de littérature, une ironie dramatique dans ce passage, au sens où le personnage principal, celui qui va être la victime, eh bien, ignore ce qui va se passer. En tout cas, on peut se demander s'il ignore. C'est-à-dire, est-ce que Isaac est dans la naïveté ? Ou dans la résignation. Voyez, il y a quelque chose qui est extrêmement dense dans ce passage, dans ce silence-là, dans ce non-dit. Et dans cette question apparemment innocente du fils, où est l'agneau pour le sacrifice? Et le texte fait ressortir l'atmosphère de confiance entre les deux. Isaac fait confiance à son père, Abraham fait confiance à Dieu. Il faut une confiance gigantesque à Dieu pour en arriver à cette extrémité-là, de se résoudre à ce qu'il faut bien appeler un sacrifice humain. Et alors cette question où est l'agneau, en fait, demeure en suspens. Abraham répond, c'est une pirouette, quoi. T'inquiète pas, mon fils, Dieu va s'occuper de ça. Pas une réponse. Hein. Et donc cette question est en suspens, et en fait Isaac a bien fait de la poser. Et le message que j'ai aujourd'hui à partager avec vous, c'est est-ce que, comme Isaac, on ne devrait pas davantage se poser cette question, où est l'agneau? Et là, je vais mettre un A majuscule à l'agneau. Et il est clair que dans tout ce que je vais vous dire maintenant, je ne parle pas comme un rabbin. Parce que ce que je vais dire, je vous ai dit, ce passage, il est hyper connu dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, on a vraiment dit tout ce qu'on pouvait dire dans ce passage, mais ils ne disent pas ce que je veux dire moi, et qui est en fait basique pour nous chrétiens, quand on envisage l'agneau comme l'agneau suprême, l'agneau avec un grand A, l'agneau fils de Dieu, donné par son Père pour nos péchés, Jésus. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas se poser un peu plus la question, où est l'agneau, en particulier quand nous sommes un peu dans la situation d'Isaac, c'est-à-dire en fait on est en montée, on est dans une marche difficile, avec un avenir immédiat qui est incertain, voire même angoissant. Je crois qu'on devrait se poser cette question-là en particulier quand on est dans des moments comme ça, quand tout va mal. Pas forcément que tout va mal, mais on ne sait pas où on va finalement. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et donc j'aimerais explorer avec vous cette manière chrétienne de marcher, de traverser l'existence en fait, en se posant cette question, où est l'agneau? Alors d'abord j'aimerais savoir pourquoi se poser cette question-là. C'est-à-dire dans le passage que Isaac demande où est l'agneau, c'est parfaitement légitime, c'est normal. Il n'est pas idiot, il voit bien qu'il y a un problème. Mais pour nous, alors comprenons que pour Isaac, en fait, il met le doigt sur le problème, c'est qu'en fait le voyage n'a pas de sens. On est censé monter sur une montagne, offrir une victime, tout est là, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, mais s'il n'y a pas l'agneau, le voyage il n'a aucun sens. Et pour nous, c'est un peu pareil. S'il n'y a pas l'agneau du sacrifice, notre marche chrétienne, elle n'a pas de sens, surtout si elle est difficile. On ne peut pas marcher jour après jour, se lever le matin, partir au boulot, revenir, manger, se mettre devant la télé, et puis recommencer, ainsi de suite, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On ne peut pas faire ça, ça n'a pas de sens, c'est absurde. En tant que chrétien, si quelque part, il n'y a pas l'agneau du sacrifice. Donc on est un peu comme Isaac, là. Isaac met le doigt, de manière très logique, peut-être très cruelle aussi, sur le fait que s'il n'y a pas d'agneau, le voyage n'a pas de sens. Donc dans cette histoire, je pense qu'on peut s'identifier un peu à Isaac. Si je fais un peu un zoom arrière et qu'on regarde l'ensemble du livre de la Genèse, la question d'Isaac, en fait, nous renvoie à une autre question qui est posée dans la Bible. En fait, c'est la première question qui est posée dans la Bible. Quand vous lisez le texte biblique, la première question qui est posée, c'est celle que Dieu pose à l'homme juste après la chute et lui dit « Où es-tu ? Où es-tu ?» Et il y a donc d'un côté la question d'Isaac qu'on vient de lire, où est l'agneau de sacrifice? Et avant, il y avait eu, quelques pages avant, cette question de Dieu posée à l'homme, où es-tu? Et si vous mettez bout à bout ces deux questions, eh bien elles expriment bien toute notre quête quotidienne. Et toute notre vie chrétienne est là-dedans. Depuis la catastrophe de la chute, Dieu cherche sans cesse chacune de ses créatures, dont ça s'applique à moi-même, ça s'applique à chacun d'entre vous, ça s'applique aux gens qui sont dehors et qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu cherche chacune de ses créatures en lui disant « Où es-tu ?» C'est-à-dire « Où tu en es ?» Où tu en es de ta marche ? Où tu en es de ton problème ? Où tu en es de ce que des décisions que tu avais prises, des serments que tu t'étais fait ? Où tu en es ? Et à cette question de Dieu, qui donc vient nous chercher, qui s'adresse à nous, répond notre question à nous, où est l'agneau ? Où est l'agneau du sacrifice ? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux mieux connaître celui qui assure mon salut ? Comment, vu les échéances qui sont devant moi, vu ce que je dois accomplir, comment connaître celui qui me permettra d'aller de l'avant ? Et ce n'est pas simplement aller de l'avant dans le sens de rebondir, puis on passe à autre chose, mais c'est vraiment de construire une vie humaine qui a un sens, de construire une vie humaine qui a une beauté, une noblesse, une grandeur. Et donc, en tant que chrétien, on pose cette question. Puisque Dieu s'est adressé à moi en me disant où tu en es, mais moi je réponds. Je réponds, où est l'agneau ? Comment je pourrais répondre où j'en suis si je n'ai pas quelqu'un qui vient me tirer de là où j'ai commencé. Et vous voyez, c'est dans ce tâtonnement de part et d'autre, Dieu d'un côté et nous d'un autre côté, un peu comme dans un tunnel, vous savez, quand on creuse par les deux bouts, et qu'il y a cette rencontre qui finit par se faire, cette espèce de tâtonnement que nous vivons dans notre vie. Une vie humaine, c'est ça, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, si vous voulez, entre la conversion et la mort, ou l'enlèvement. Eh bien, nous sommes dans ce tâtonnement, dans, quelque part entre ces deux questions. Et notre avenir éternel, il dépend de cette motivation à le chercher. Parce que si en tant que chrétien, je traverse l'existence en disant « Bon, vivement le prochain week-end, vivement les vacances, vivement la retraite », je passe à côté de tout ce que Jésus est venu faire sur Terre. Si par contre, je traverse les mêmes étapes, je suis à quelques mois des vacances, à quelques mois de la retraite, à quelques mois d'une opération importante, à quelques mois du mariage de mon fils aîné, peu importe. Et si je passe toutes ces étapes en cherchant constamment où est l'agneau, alors les mêmes choses que je vais vivre, ma vie humaine, assez banale finalement, elle prendra un sens, une profondeur, une vérité qu'elle n'aurait jamais eu autrement. Maintenant, j'aimerais aborder, si vous voulez bien, le Nouveau Testament, parce que cette question est présente aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, et donc vous savez que l'Apocalypse veut dire révélation, et donc on a l'apôtre Jean qui a cette vision des réalités célestes. Donc l'Apocalypse est un livre extrêmement imagé, parce que comme il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe dans l'au-delà, on est bien obligé de prendre des images. Et donc Jean nous dit que dans sa vision, il voit un agneau comme égorgé. Il voit un trône, et sur le trône, il y a un agneau égorgé, qui est clairement Jésus. Et dans Colossiens, il nous est dit qu'il a plu à Dieu de faire résider corporellement en lui, en Jésus, toute la plénitude de la divinité. Et donc, de l'accès à sa plénitude dépend ma plénitude. De l'accès à sa plénitude dépend ma plénitude. C'est-à-dire que je dois aller chercher la plénitude de là où elle est. Si je me sens vide, c'est pas en allant dehors fumer une cigarette ou en vidant un petit whisky que je vais combler le vide qui est en moi. Je dois aller chercher la plénitude de là où elle est. Je dois accéder à sa plénitude. Et j'y arriverai en me posant la question, mais où est l'agneau ? Si je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, une espèce d'insatisfaction, de superficialité dans ma vie, de quelque chose qui tourne un peu à vide, pas forcément la grande crise, mais, ni le grand marasme, mais bon, voilà. Eh bien, j'ai intérêt à me mettre en quête et me poser la question, mais où est l'agneau ? Je vais chercher l'agneau. Je vais chercher sa plénitude. Et ne pas poser cette question, c'est finalement se condamner au vide intérieur, à la frustration, à une vie ratée. Moi, je suis entouré de gens, je vois autour de moi. Je viens de passer 35 ans dans le même lycée, je serai à la retraite dans un mois. Et quand je vois mes collègues, dont la plupart sont là depuis très longtemps aussi, je vois leur évolution, ça ne me fait pas plaisir pour eux. Ils sont vraiment en train de passer à côté. Il y a un endurcissement, il y a une vacuité. Et je me considère vraiment privilégié d'avoir connu Jésus, le fait d'avoir entendu cette question de Dieu. Pierre, où tu en es là? Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il faut un peu changer de route, qu'il faut un peu sortir de tes ornières? Je suis privilégié d'avoir entendu cette voix de Dieu et de me poser cette question périodiquement, mais où est l'agneau? Je dois aller chercher cet agneau, je dois aller vers lui. Et donc je me trouve privilégié de me trouver dans le contentement, dans la satisfaction, non pas que dans ma vie tout est génial, tout est rose, tout va bien, c'est pas ça, mais que j'ai accès à cette plénitude. Et c'est pas une fatalité d'être toujours dans les mêmes ornières, c'est pas une fatalité d'être dans une vague d'insatisfaction, dans de vagues craintes, dans de vagues mal-être, en comptant sur les vacances pour arranger ça, ou en comptant sur une telle ou telle personne pour passer une bonne soirée. C'est pas une fatalité. On a accès à autre chose en tant que chrétien. Et donc l'exhortation, c'est chercher l'agneau. La base de notre vie quotidienne de chrétien. Je veux dire, voilà, si on n'est pas chrétien, ben voilà, on est livré à la recherche de satisfaction terrestre. Mais la base de notre vie chrétienne, c'est de chercher la victime expiatoire, celle qui annule les conséquences de la chute. Je vous ai parlé de cette question que Dieu pose à l'homme, où en es-tu? Et Dieu pose cette question à l'homme après la chute, alors qu'il sait que l'homme s'est déchu, que l'homme s'est, pour parler familièrement, tiré dans le pied, et voire même, pour beaucoup de gens, descendu en flamme. Donc Dieu arrive après la chute de l'homme, en lui disant, regarde où tu en es. Moi je te cherche, j'ai quelque chose à t'apporter. Et souvent, vous voyez, on oublie ça, c'est-à-dire que dans les questionnements que nous pose l'existence, la question qu'on pose, nous, c'est qu'est-ce que je dois faire? La chaudière a l'air de mal marcher, là, qu'est-ce que je dois faire? J'attends, j'appelle le chauffagiste tout de suite, ou quoi? J'ai quelqu'un là, dans mon entourage, qui a l'air de m'en vouloir, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais aller le trouver, tirer les choses au clair? Ou est-ce que je laisse filer? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà la question qu'on se pose. Surtout les hommes. C'est typiquement masculin. Qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas la bonne question. Pourquoi? Parce que quand nous posons cette question, qu'est-ce que je dois faire? Nous oublions que nous sommes des êtres déchus et que notre vie intérieure est faussée par la chute. Et que, donc, notre perception des choses, notre manière d'envisager le monde, les gens qui nous entourent et nous-mêmes, elle est souvent faussée par toutes sortes de culpabilités, de regrets, de complexes, de fausses perceptions, qui fait que quand je pose la question « qu'est-ce que je dois faire ?» et que je prends une décision, eh bien, très souvent, ma décision, elle est faussée. Par exemple, il y a quelqu'un qui apparemment me fait un peu la tête, là, pour ne pas dire la gueule. Et là, moi, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, la personne ne me fait pas du tout la gueule. C'est moi qui me suis mis ça dans le crâne. C'est mes propres complexes de rejet, ma propre petite paranoïa. Et donc, vous voyez, poser la question, c'est la poser de manière fausse, parce que de toute façon, la vision du problème que j'ai de départ, elle est fausse. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc on est toujours là à chercher à résoudre des problèmes dans la vie, qu'ils soient matériels, relationnels ou quoi. Et la solution, c'est beaucoup plus se laisser transformer dans la relation avec l'agneau. Au lieu de dire « qu'est-ce que je dois faire ?», je dois me poser davantage la question « où est l'agneau ?» Où est l'agneau dans ce qui m'arrive? Où est l'agneau dans ce que je perçois autour de moi? Où est l'agneau qui enlève le péché du monde et donc qui enlève les conséquences du péché en moi? Et de même manière, on nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est à chercher à être juste. Et tout le reste vous sera donné. Et donc, au lieu d'être là à dire qu'est-ce que je dois faire, et être toujours dans ce faire, je dois me poser bien davantage la question, où est l'agneau? Et l'ayant trouvé, puisqu'il est parfaitement accessible, dans cette relation avec lui, me laisser laver, me laisser rincer, me laisser redresser. Et là, je m'aperçois que des choses qui me paraissaient comme des problèmes, c'était en fait des faux problèmes. En particulier dans le domaine relationnel. Et que je me suis souvent collé des tas de responsabilités qui n'étaient en fait pas les miennes, des tas de devoirs qui n'étaient pas les miens, des tas de tâches à accomplir que j'aurais pu laisser de côté. Et que si j'apprends à lâcher tout cela dans la relation amoureuse avec l'agneau, eh bien concrètement, j'arrive à faire ce que je dois faire, parce qu'on n'est pas sur un nuage rose à attendre la fin du monde. Mais j'arrive à faire les choses telles que je le dois, avec beaucoup plus de liberté intérieure, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'efficacité, et je vois bien que ça ne vient pas de moi. Ça vient du fait que j'ai cherché l'agneau, et que l'ayant trouvé, j'ai reçu de lui ce dont j'avais besoin pour vivre. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui fait que notre vie est différente de nos collègues de travail, ou de mon beau-frère, ou de mon voisin. Parce qu'il y a quelque chose qui intérieurement est différent, une autre dynamique, une autre orientation, une autre quête. Où est l'agneau? Et donc nous avons intérêt à chercher l'agneau pour le suivre. Vous savez, souvent en tant que chrétien, là je déplace un peu le problème, notre question c'est où est le Dieu d'Élie? Vous voyez ce que je veux dire, où est le Dieu d'Élie? Qu'est-ce qu'on aimerait voir la gloire de Dieu révélée dans notre entourage? Qu'est-ce qu'on aimerait que... On voit des gens atteints de graves maladies autour de nous, hein, des choses pour lesquelles la médecine n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on aimerait voir des gens guéris, comme on le voit dans les évangiles? Combien on aimerait que des couples que nous voyons au bord du précipice depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, toujours au bord du divorce, et puis on sait que tout d'un coup la nouvelle va tomber, que voilà, c'est fini, hein, c'est bon, ils ont pris rendez-vous avec un avocat, ils se séparent. Et qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait la réconciliation? Et toutes sortes de choses que nous voyons autour de nous comme ça, qu'on aimerait, puisque nous connaissons cette solution, et on aimerait voir la gloire de Dieu révélée autour de nous, dans les couples, dans l'itinéraire des enfants, la trajectoire de nos propres enfants, la santé, les relations au travail, toutes sortes de choses. Et là, nous demandons parfois, mais Seigneur, où es-tu? Où est ta gloire? Où est le Dieu d'Élie? Où est ta puissance? Où est ta capacité d'intervention? Et Dieu nous répond, il nous souffle à l'oreille, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ça la réponse. Cherchez l'agneau. Vous connaissez l'histoire qui a donné lieu à cette citation que je viens de faire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'était deux disciples de Jean. Et ils ont rencontré Jésus, ils ont été fascinés. Et ça a commencé à travailler dans leur tête, ils se posaient des questions. Et puis ils vont voir leur maître, Jean, en disant, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a toi, il y a Jésus. Et Jean leur dit, mais suivez-le lui. Regardez, lui qui passe là, l'air ordinaire, espèce de rabbin itinérant, habillé normalement. Lui, c'est l'agneau de Dieu, suivez-le, c'est celui-là qu'il faut suivre. Parce que lui enlèvera votre péché. Moi, je ne peux pas, je suis qu'un prédicateur, dit Jean. Mais suivez l'agneau. Et donc, ces deux personnes l'ont suivi. Après, il y en a eu 12. Après, il y en a eu 70. À la Pentecôte, ils étaient 120. Et maintenant, il y en a des millions et des millions et des millions. Vous savez que dans certains pays, notamment en Asie, la croissance des églises est exponentielle. Exponentielle. Je lisais une statistique Concernant le Népal, hein, si je vous parle du Népal, Katmandou, la drogue, ou le trekking dans l'Himalaya. Mais pour nous chrétiens, le Népal, c'est que en 1968, donc quand j'avais 15 ans, il n'y avait même pas une dizaine de chrétiens dans tout le Népal. Maintenant, ils sont des millions. Il y a un Népalais sur trois qui est chrétien, alors que le pays est traditionnellement bouddhiste ou hindouiste. Un Népalais sur trois est chrétien. Et vous avez des pays dans lesquels la croissance est tout à fait semblable. C'est exponentiel. Tout ça parce qu'il y a deux personnes ordinaires qui, un jour, se sont laissées interpeller et ils ont entendu « Suivez-le là, voici l'anneau du Dieu qui enlève le péché du monde. » Et ils se sont laissés fascinés. Ils ont suivi cet homme qui avait l'air tellement ordinaire quelque part et d'un autre côté tellement extraordinaire. Rien ne peut se faire si nous ne suivons pas l'agneau. On peut dire à Seigneur, révèle ta gloire, descends du ciel, fais des miracles, fais tomber le feu de Dieu, on peut prier tout ce qu'on veut. Si moi, je ne me mets pas en quête de suivre l'agneau au quotidien, je peux vous garantir, il ne se passera rien, ni dans ma vie, ni dans mon entourage. C'est parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, tout à fait ordinaire, pas des grands prédicateurs, pas des faiseurs de miracles, pas des fondateurs d'église, des hommes et des femmes ordinaires comme nous aujourd'hui, qui se mettent en tête sérieusement dans leur vie personnelle, dans leur intimité, de suivre l'agneau. C'est parce qu'il y a des gens comme ça que les choses changent, que d'autres se mettent à les imiter. Et donc nous devons prendre au sérieux cette exhortation à suivre l'agneau. Et vous voyez, l'enjeu, c'est pas simplement de voir la puissance de Dieu révélée sur terre. La puissance, l'enjeu, c'est finalement notre destinée éternelle. Ça, il y a un cantique qu'on chante dans nos églises. Suivez, suivez l'agneau. Vous connaissez, hein? Suivez, suivez l'agneau. Et il y a un moment dans ce cantique, il y a quelque chose qui dit, mais pour le suivre au ciel, suivez-le sur la terre. Et on pourrait renverser la chose en disant, si vous l'avez suivi sur la terre, vous le suivrez au ciel. C'est le fait de suivre l'agneau, de chercher l'agneau qui nous ouvre les portes du ciel. Le ciel ne sera pas ouvert par des raisonnements de type philosophique ou par de savantes déductions dans la Bible. Le ciel est ouvert par le fait que je me mets en quête sérieusement, là où je suis, comme je suis, avec ce que je suis, de trouver l'agneau. Et que je vais apprendre dans les circonstances de ma vie à le découvrir. Je le découvrirai parce que j'ai posé la bonne question, où est l'agneau ? Et donc j'en arrive à ma conclusion, si nous demandons vraiment, véritablement, avec sincérité, si nous posons cette question, où est l'agneau ? Où est-il ? Eh bien, nous avons la garantie que d'autres le verront, d'autres que nous le verrons, et se mettront également en quête. Voilà, le Seigneur vous bénisse, qui vous accorde une bonne semaine, une marche avec lui, qui vous accorde de voir sa main à l'œuvre dans votre vie. Amen.